With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il y a un peu l'injonction du coup à t'aimer quand tu fais le body positive, à aimer ton corps. Ou en fait maintenant, moi, mon discours, c'est plus de dire le corps, c'est pas du tout qui tu es. Et notamment pour les femmes à qui on réduit vachement leur existence à leur apparence physique. En fait, je préfère aujourd'hui, s'il y a une étiquette à mettre, le terme de body neutrality. Parce que déjà, peut-être que les personnes grosses se réapproprient le mot body positive parce que je peux comprendre la violence d'une meuf qui est mince selon les standards de la société et qui est là à dire acceptez-vous, tu vois, même si ça a aidé des gens et j'en suis ravie. Mais maintenant, c'est vrai que je parle plus de body neutrality. Genre, vous êtes tellement plus que votre corps, en fait. Ouais, aimez-le, c'est cool, mais en fait, juste, il n'y a même pas pour moi d'étiquette à porter en fait, sur votre corps, de jugement, de c'est pas grave s'il y a des jours où tu t'aimes moins, c'est normal.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Comment ça va, Louise ?
Écoute, ça va bien. Là, ça va bien. Alors, pour tout te dire, il sort quand cet épisode, tu sais ?
Bien, d'ici une semaine ou 15 jours, je sais plus.
Alors, je serai peut-être en plein milieu de ma retraite. Je te le dis en exclusivité, parce
Ta
que je pars demain. Ouais, je pars demain. Parce que donc, ça va très bien.
Ouais.
Parce que je suis dans ce tourbillon, tu vois. Et en fait, j'essaye de prévenir plutôt que guérir. Et j'ai vraiment remarqué que je suis pas bien quand je fais pas 10 000 trucs. Et je pense que c'est problématique. Et du coup, j'avais fait une retraite silencieuse au Nouvel An dernier. J'ai trouvé ça très cool. Et là, je me challenge un peu plus. Alors, c'est pas une retraite silencieuse à proprement parler.
T'as réussi à faire une retraite silencieuse. J'ai l'impression que t'es tellement
ouais.
Volubile, toi.
Mais voilà. Mais en fait, je pense que j'ai un peu triché parce que j'ai fait que lire.
Ah oui, non, c'est pas ça le concept de la retraite silencieuse.
Je sais, mais on avait le droit et ils m'ont tendu une perche, tu vois. Après, j'ai quand même médité pendant les phases de méditation. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu cette fuite en avant. Et j'ai envie de me dire là, enfin en fait il s'avère qu'une amie, organise une retraite et elle me proposait d'y aller, je me suis dit ben go. Enfin ça me fait très peur, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on grandit ? Donc voilà.
Bah t'es plutôt du genre à aller chercher les trucs qui te font peur, non ?
Ben pas forcément, non pas forcément, non franchement ce que je lance c'est généralement vraiment par envie et il y a une sorte de peur mais qui est plus de l'excitation.
Ok.
Là vraiment je sors de ma zone de confort et normalement je déteste ça et pendant longtemps j'ai dit je comprends pas les gens qui veulent à tout prix sortir de leur zone de confort, enfin moi ma zone de confort elle me va très bien et je maintiens ça, il y a un truc un peu injonctif de à un moment tu vas pas non plus sans cesse faire là où t'es pas à l'aise, mais dans certains cas je pense quand même que c'est que ça a un bienfait. Et là, dans mon cas, je me dis... Enfin, ça se trouve, je vais détester. Hein. Tu vois, ça se trouve, je vais revenir, ça va être horrible et je vais dire plus jamais. Mais j'ai envie de m'y confronter une semaine de déconnexion. J'ai jamais fait ça, tu vois, ce qui paraît assez dingue à dire. Hein. Mais
ta retraite silencieuse, t'avais pas... Enfin, t'avais quand même...
Si, mais c'était 3 jours.
Ah oui, ok.
Donc, c'est pas pareil, tu vois. 3 jours, une semaine, il y a une diff.
Oui.
Donc, j'ai fait 3 jours et j'avais déconnecté, donc mais tu vois, j'en ai pas gardé de bienfaits à long terme, j'ai l'impression, enfin j'ai juste reconnecté et je suis repartie de plus belle, donc je pense faut trouver un équilibre.
C'est pas beaucoup 3 jours.
C'est pas beaucoup 3 jours.
C'est, tu vois, c'est un peu un, ok, je me lance un défi et puis voilà quoi, tu vois.
Voilà. Alors qu'une semaine, je pense, t'as pas le temps de. Après, je sais pas si tu dois connaître Vipassana, non ?
Ouais.
Tu l'as fait toi ou pas ?
Non, j'ai fait. En revanche, je suis allé en Inde, j'ai fait un truc, un délire de. Ayurveda, méditation, ouais. Yoga, trucs.
Mais je crois que tu m'en avais parlé quand tu étais venu sur mon podcast.
Pranayama et tout.
Ouais, pranayama, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Hein, quand t'es pas enrhumé.
La drogue gratuite.
Ouais, il paraît.
Grâce à l'oxygène, la suroxygénation.
Ouais, mais alors, il faut attendre un certain temps, non? Parce que moi, perso, je le fais 3 minutes ou 5 minutes, j'ai pas d'effet de drogue.
Nous, c'était des séances d'une heure, là.
Pranayama pendant une heure?
Ouais.
Et c'est pas un peu pareil que la respiration holotropique?
C'est plus vénère que ça. C'est quoi la respiration? C'est le truc.
Alors, la respiration holotropique, c'est un truc théorisé par un psychiatre, Stan Grof, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une respiration en 3 étapes, de la poitrine et puis après du souffle, où en fait, t'es censé avoir les mêmes effets que sous LSD.
C'est le fameux gars qui plonge dans la flotte. Non, c'est pas lui.
C'est pas lui, je crois.
Qui plonge dans la flotte.
Non, là,
froide,
c'est un psychiatre. C'est ça qui est assez dingue. C'est que...
Écoute, là, vraiment, il y a un truc où, en gros, tu fais des exercices de respiration et ça finit par. Tu finis par suroxygéner ton cerveau. Tu sors de là, mais t'es stone de chez stone, quoi. Vraiment. Mmh. Tu planes à 4000.
Et c'est agréable?
Bah oui.
Parce que moi, je me dis que, tu vois, j'aimerais pas tous ces états où. J'ai pas l'impression d'être moi-même, tu vois, c'est toujours le même problème au final.
Lâcher prise,
si quelqu'un a le mode d'emploi, send it to me.
C'est un chemin.
Ouais, j'avoue, je pense qu'il y a aussi
T'es encore jeune, ouais. T'as quel âge?
24.
Non mais, quelle jeunesse. Forcément, à 24 ans, t'as encore plein de trucs à voir devant toi.
C'est sûr, c'est peut-être un biais de notre génération de vouloir tout de suite... Mais c'est vrai, en fait, je crois que je suis juste tentée aussi par les personnes autour de moi qui sont dans cette vie spirituelle. Et peut-être que les personnes qui écoutent mon podcast, pour le coup, ont remarqué que je reçois de plus en plus de personnes qui en parlent un peu, que ce soit des philosophes ou, tu vois, des personnes qui font vachement de méditation et tout. Ils ont l'air tellement sereins. Je parle au masculin parce que j'ai pas rencontré de femme encore. Si, il y a Kaina qui est venue sur mon podcast, qui, histoire incroyable, tu vois, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques à mon âge à peu près. Et en fait, elle a refusé le diagnostic, entre guillemets, elle s'est dit non, en fait, il y a autre chose qui est possible. Et elle a complètement changé de vie, et tu vois, elle est partie voyager, elle s'est mise au yoga, sonothérapie, tout ça. Et en fait, là, elle a peut-être 28, 29, elle va très bien.
Mais il y avait un truc qui a déclenché ça chez elle, la maladie.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
T'as raison. Mais ouais, généralement, tu passes pas au virage spirituel pour rien, quoi. mais du coup, voilà, moi, je sens qu'il y a ce truc, parfois, de trop plein.
Ouais.
De trop, voilà, où j'aimerais bien trouver cette sérénité sans cesse être dans le faire. Et je pense que c'est le risque aussi. Enfin, tu vois, tu m'as dit que ton podcast c'est histoire de succès, j'ai pas de bêtises. J'allais dire histoire de daron, mais je ne suis pas un daron. donc,
si un jour tu veux venir faire histoire de daron, n'hésite pas.
Peut-être un jour, peut-être si tu sors histoire de daron, si je suis une daronne un jour, mais je pense que c'est peut-être le pendant du succès dont on parle pas, c'est qu'on devient nos accomplissements. Et donc moi, je suis vraiment dans cette quête de pas me définir par mes accomplissements, mais c'est super dur. Et c'est marrant, j'en parlais ce matin aussi avec une fille que j'ai reçue sur mon podcast qui est surfeuse pro. Bah, pour les sportifs de haut niveau, c'est un problème problématique, c'est te définir au-delà du résultat. Et ça se trouve, les personnes qui nous écoutent ont ces problématiques-là de par, je sais pas, un statut conjugal ou par leur taf. Moi, je sais que je l'ai et voilà, j'ai pas envie que ça aille en s'empirant. Donc, mieux vaut s'y prendre tôt, tu vois.
Mais donc, tu veux dire que si demain, en gros, tu décides de plaquer My Better Self et de redevenir Louise et de partir, je sais pas moi, de devenir boulangère, par exemple, tu vois ça, tu as l'impression que ça serait difficile pour toi de ce fait-là de laisser tomber My Better Self et tout ce que tu as pu accomplir à côté?
Ouais, carrément. Carrément. Je pense que ça a vraiment construit qui je suis, que c'est venu combler pas mal de blessures, de manques, de ce que tu veux. Et j'en suis super fière et j'adore ce que je fais en plus. Donc, tu vois, pour l'instant, j'ai envie de continuer.
Quel manque, quelle blessure? Tu peux pas me dire ça comme ça sans croire que je vais pas rebondir, quoi.
Franchement, tu peux, mais même moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. Alors après, je me pose la question. Mais en plus, je suis très à l'aise avec le fait d'en parler. Ouais. Les personnes qui me suivent le savent. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai une relation conflictuelle avec mes parents qui sont vraiment particuliers. Bon, après, comme chaque parent sûrement, mais qui ont vraiment jamais été dans le dialogue, qui sont très autoritaires, qui m'ont toujours dit parce que c'est comme ça. Et bon, voilà, même des préférences affectives, tu vois. Donc,
entre frères, sœurs.
Entre frères, sœurs. Et en plus, j'ai une sœur jumelle. Oui. Donc, tu vois, voilà, on nous a vachement comparé, etc.
On va en parler.
Ouais, si tu veux, carrément. Et donc, je pense, maintenant, je me dis que c'est forcément ça, parce que je pense toutes les personnes aujourd'hui qui ont un grand succès, alors j'allais dire sur les réseaux, mais c'est peut-être le cas dans beaucoup de domaines, mais tu vois, voilà, encore une fois, on le valorise vachement, mais je pense que c'est des personnes qui ont vraiment des choses à prouver, parce que t'arrives pas là par hasard. Et je m'en suis pas rendu compte au début, tu vois. Moi, j'étais là, juste je partage, j'adore ce que je fais. Mais ouais, mais tu te donnes tellement. C'est 110% de ton temps. C'est du non-stop. Toute personne, entre guillemets, normalement constituée ou très équilibrée, je pense, ne ressent pas le besoin d'en faire autant. Non, mais tu vois, encore une fois, voilà, c'est vraiment ma réflexion en ce moment de me dire, ça me rend épanouie. Je pense que ça me rend heureuse, mais je suis même pas trop capable de le dire parce que je suis tellement toujours dans le faire et c'est assez triste parce que du coup quand je ne fais pas j'ai un manque et donc j'aimerais bien avoir ce truc de encore une fois ne sois pas esclave de tes passions quoi. C'est tu existes au-delà de ça,
c'est un peu le problème du métier passion.
Ouais, carrément,
c'est un peu le piège,
c'est un peu l'excès en fait.
T'arrives à rien foutre pendant un week-end ou une journée, par exemple ?
Pas du tout.
Impossible ?
Impossible.
Tu pourrais pas te dire, tiens, en fait, il y a une série cool qui vient de sortir, j'ai passé un week-end à la regarder et en fait, t'as pas du tout m'occuper du boulot.
Non. Non, honnêtement, non. Alors, il y a un truc que j'ai réussi un peu à faire l'année dernière, mais en fait, ça dépend vraiment des phases. C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire, je pense, parce que tout allait bien. Donc, quand tu vois bien, j'y arrive notamment à faire des week-ends off avec mon copain dans des endroits cool. Après, c'est rarement totalement off.
C'est off, oui, j'allais dire, c'est pas off.
Voilà, généralement,
t'as quand même ton téléphone avec toi.
J'ai quand même mon téléphone avec moi, mais pour moi, déjà, passer la journée à ne pas travailler, c'est quelque chose. Parce qu'en vrai, je travaille toute la semaine, et souvent, il me reste tellement de trucs à faire le week-end que je faisais le week-end, mais ça ne me dérange pas, vu que j'aime beaucoup ce que je fais et que j'aime beaucoup accomplir. Donc déjà, faire une journée où juste on voyage, on kiffe, et puis le soir, je fais juste un post ou quelques stories, c'est déjà un pas pour moi. Mais non, c'est vrai que la culpabilité ou même le dérangement, tu vois, c'est vraiment physique et mental.
C'est la culpabilité, quoi.
Ouais. Mm-hmm. De ne rien faire ne vaut pas le coup pour moi, parce que je retire plus de plaisir à faire mes trucs que de regarder une série en week-end. Et franchement, j'ai pas envie de foutre la culpabilité aux personnes qui font ça. Enfin, tu vois, ma cousine que j'adore, elle kiffe faire ça et elle sait qu'on est hyper différents là-dessus. Et moi, franchement, je l'envie aussi parfois à ce niveau-là. Elle m'envie sur d'autres parties parce que elle a le pendant inverse où du coup parfois elle procrastine trop. Mais j'aimerais bien me foutre la paix parfois, ouais. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas. J'ai l'impression que je le contrôle pas du tout.
Bah, alors si, tu le contrôles, mais c'est juste. Je crois qu'il y a un peu. C'est un peu une course en avant, mais peut-être que cette semaine de.
Je pense
retraite va t'apporter des réponses.
Et franchement, pour moi, ça passe ou ça casse. Ouais. Ça se trouve, je vais revenir brisé, tu vois.
Mais non! Au pire, il va se passer quoi? Au pire, tu te barres si ça va pas.
C'est sûr, t'as raison. Ah, merci de me le dire, parce que tu vois, je me l'étais même pas dit. Et c'est juste représentatif de ma personnalité, tu vois. C'est que moi, I don't quit, tu vois.
Ben voilà.
J'y allais en mode, tu fais un truc, tu le finis. En fait, t'as raison, tu me rassures. Si ça me plaît pas, je repars.
Après, je sais pas si t'en es capable, hein. Tu vois, c'est ça l'autre truc. C'est vraiment, comme t'es pas une quitteuse, comme tu dis.
Ouais.
Je crois pas que ce soit aussi simple que ça, mais. Bah,
au moins, tu viens de me laisser entrevoir la possibilité.
De te choisir toi en premier, quoi. Ouais. Tu vois, avant de te dire, OK, mon objectif, c'est ça, alors je vais aller jusqu'au bout.
C'est sûr.
Ah là là.
C'est la sagesse, hein, qui parle de ta part.
Oui, c'est quelques âges. Écoute, j'ai 20 ans de plus que toi. Donc, tu vois.
Pile. Putain, ouais. C'est fort.
Pile poil. Donc, peut-être que c'est ça. Mais en fait. Je crois aussi qu'à 24 ans, j'avais jamais ton mindset, tu vois. C'est-à-dire que vous, entre guillemets, votre génération, vous avez la chance, en fait, avec Internet, d'avoir une ouverture depuis le plus jeune âge, qui est trop cool. En fait, moi, à 28 ans, tu vois, 24, pardon, c'était encore les tout débuts d'Internet, quoi. Quand j'avais 24 ans, il n'y avait pas les tutos, il n'y avait pas les comptes Insta, il n'y avait pas tout ça, quoi, tu vois.
C'est sûr, Donc, c'est sûr. Franchement, pour moi, c'est... J'ai une expression qui est un peu « a blessing and a curse ». Donc une bénédiction et une malédiction, ça dépend de ce qu'on en fait. Je pense que ça ouvre vachement de portes et c'est génial. Et surtout, ça laisse la possibilité... Enfin, je trouve que ça renforce l'égalité des chances. Et d'un autre côté, moi, ça va, j'ai commencé assez tard, entre guillemets, 19 ans. Enfin, c'est con à dire, mais j'étais déjà...
Assez tard ?
Ouais. En fait, je dis ça parce que... Non, mais parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent à 13-14 ans, tu vois.
Ok.
Et c'est ça qui me fait peur. Parce que à 13-14 ans, j'étais vraiment influençable, vulnérable. Franchement, moi, à 19 ans, j'étais bien. Hein, j'étais construite. Enfin, tu vois, t'as fini le collège, lycée, qui sont un peu des années difficiles, entre guillemets, socialement parlant. 19 ans, je suis arrivée en études supérieures. En plus, je suis entrée à Sciences Po où je voulais vraiment aller. Donc, j'avais vraiment l'impression, tu vois, d'être.
Mais t'as conscience.
D'être à ma place, quoi.
T'es encore un bébé à 19 ans par rapport à là où t'es aujourd'hui à 24. Quand tu regardes la Louise de 19.
En fait, t'as raison. Mais. Mon changement d'état d'esprit s'est opéré vers 18-19 ans, donc en y repensant, 19 ans, là, pour moi, c'est quand même déjà assez âgé, entre guillemets. Enfin, tu vois, juste dans le sens mature. En tout cas, j'avais atteint déjà un stade de maturité à 18-19 ans, où j'étais vraiment déjà en mode prendre le pouvoir de ma vie, où je déconstruisais vachement l'éducation de mes parents, etc. Donc, évidemment, en fait, j'avais rien fait encore, vu que j'ai lancé voilà, mon compte Insta à 19 ans, mais l'état d'esprit était déjà là.
On va en reparler. Parce qu'en fait, je veux bien qu'on commence l'interview.
Désolé pour l'intro, guys.
J'adore faire des longues digressions au départ, mais c'était c'est vraiment très cool. Donc Louise, effectivement, Louise Aubry, que t'es plus connue sur les internets sous le pseudo My Better Self. Donc comme tu le disais, c'est un compte que t'as lancé quand t'avais 19 ans. T'as lancé là dernièrement une marque de lingerie, parce que ça y est, t'as décidé de créer un empire. T'as aussi un podcast, t'as une chaîne YouTube, enfin, t'as plein de choses. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je mettrai tous les liens dans les notes, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas? Je ne sais pas. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Louise, quand tu avais 7-8 ans?
Quand j'avais 7-8 ans, il faut que je m'en souvienne. Hein. Je sais que j'ai toujours été assez chef, assez leader. Donc, c'est un truc qu'on me dit souvent, tu vois, quand j'avais 7-8 ans, j'aimais bien commander, j'étais un peu la leader de mon groupe d'amis. J'avais toujours ma fidèle sœur jumelle qui a toujours eu plutôt le pendant inverse, mais qui m'a toujours soutenue, tu vois. Enfin, c'est vraiment... on était hyper complémentaires. Alors, à savoir qu'à l'époque...
Dans quel sens? C'est-à-dire qu'elle, elle avait plutôt tendance à te suivre, c'est ça?
Ouais, mais dans le sens...
Mais pour être chef, il faut quelqu'un qui te suive déjà. Donc,
en fait je pense que c'est ça aussi qui nous a vachement construit toutes les deux. C'est cette relation de sœurs jumelles. On est, j'allais dire fausses jumelles, mais vraiment, il faut changer ce terme qui est laid.
Tu veux dire que vous ressemblez pas de ouf?
Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même poche, ouais. Et qu'on est très différentes, en fait. On est comme des sœurs, sauf qu'on a le même âge. Juste pour voilà situer, parce que c'était pas non plus tu vois enfin les vrais jumeaux qui sont fusionnels, et donc j'étais un peu chef, j'étais assez déjà mature, je crois, j'étais assez rigolote, assez drôle, je pense que je commençais déjà à développer une passion pour la lecture, j'ai vachement lu quand j'étais enfant. Et quoi dire d'autre? Je crois que c'est tout. J'adorais mes amis. C'était vraiment comme une deuxième famille. J'adorais mes grands-parents. Déjà, à l'époque, je m'entendais pas très bien avec mes parents. Mais voilà, j'étais... Bah, en fait, moi, j'ai vraiment toujours eu mal avec l'autorité. Donc, c'est vrai que pour moi, mon enfance, peut-être que le recul n'est pas encore assez puissant. Mais j'ai encore du mal à me dire est-ce que j'étais heureuse, est-ce que j'étais pas heureuse. Il y avait des hauts et des bas, tu vois. En soi, je manquais de rien, donc ça, c'est déjà une énorme chance. Mais je pense que c'est là qu'est née sûrement mon envie de plus tard vraiment être libre et décider de faire ce dont j'avais envie.
T'avais du mal à l'école, d'une manière générale, à obéir, c'est ça?
Exactement. J'avais pas de problème scolairement parlant, mais j'avais énormément de mal... Ouais, à obéir, t'as dit le mot, quoi. Moi, je voyais pas de raison d'obéir, en fait, si on me donnait pas une vraie raison de le faire. Et l'autorité, en soi, qui est inhérente aux personnes plus âgées que toi, je la comprenais pas, quoi. C'est pas parce que c'était plus vieux que moi que tu peux me dire ce que j'ai à faire. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Pour moi, l'autorité, le respect, de manière générale, s'acquiert. On pense vraiment que c'est dû. Enfin, un minimum de respect, évidemment, dû. Mais juste le respect de l'autorité, plutôt, pour moi, il s'acquiert.
Ouais, je comprends. Mais ça devient de où alors? T'as l'impression, parce que tu racontes que t'avais toi-même du mal avec l'autorité de tes parents.
Ouais.
Qui étaient eux-mêmes autoritaires et peut-être qu'ils en ont même rajouté une couche parce que tu voulais peut-être pas leur obéir.
Ouais, c'est peut-être possible, mais bon, je pense qu'ils étaient quand même particulièrement. Donc je pense que c'est aussi une théorie que j'ai déjà dit sur mon podcast. Moi, je pense qu'on est vachement plus qui on est que l'environnement dans lequel on grandit. Et je pense que j'ai cette croyance, enfin, après, toute proportionnalité encore une fois, mais en tout cas par rapport à l'éducation. Parce que j'ai une sœur jumelle, et donc on a vraiment eu la même éducation, et on est tellement différentes que vraiment j'en suis arrivée à la conclusion qu'on est vachement plus qui on est. Moi j'ai toujours été beaucoup plus rebelle, elle a toujours été beaucoup plus chill, Et on a eu les mêmes parents, on a eu la même éducation, tu vois. Donc je pense vraiment que c'est vachement plus...
Mais on est aussi des êtres sociaux, tu vois. Donc c'est sûr que si à un moment donné, toi, dès le plus jeune âge, tu te dis « Ok, maintenant c'est toi qui vas me suivre, c'est comme ça. » Bah en fait, peut-être que ta sœur, elle se dit « Bon, ok, alors si c'est ça mon truc, let's go, quoi, tu vois. »
Ouais, mais pour qu'elle se soit... Enfin, moi, déjà, pour que je me sois affirmée de la sorte et qu'elle n'ait pas contesté, c'est qu'il y avait un terreau, tu vois. C'est que nos gènes étaient différents quand même de base, parce que moi je peux te dire, si elle avait tenté l'inverse, ce ne serait pas arrivé. donc ouais, je pense qu'on est vachement plus notre personnalité, et que ça a amené à changer aussi, et c'est un truc qui me fascine, sur lequel j'ai pas encore énormément lu, mais sur lequel j'ai envie de me renseigner, qui est l'épigénétique, qui est un peu la science de comment on peut modifier nos gènes, en fait. Je trouve ça...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je trouve ça fascinant.
Clairement. J'ai interviewé Natacha Calestrémé,
ouais.
Qui a sorti un bouquin sur Trouver ma place, en fait, qui raconte que les traumatismes rentrent dans les gènes, en fait.
C'est dingue.
Et que, en fait, on finit par se les refiler de génération en génération.
Mais oui, ça, j'avais entendu dire. Et alors après, je sais pas du tout encore où je me situe dans le niveau des croyances spirituelles, mais il y a Lise Bourbeau, tu vois qui c'est ?
Non.
Les cinq blessures de l'âme.
Ok, je vois.
Et elle va même très loin en disant, en gros, on porte les blessures de nos parents et dans chaque vie, on doit les résoudre et on a choisi nos parents, etc.
Ah, tu veux dire l'âme a choisi.
Ouais.
Ouais.
C'est hyper perché. Du coup, moi, il y a un plan que j'ai eu, je me dis, ok, pourquoi j'ai choisi ces parents-là, mais bon, c'est intéressant comme théorie.
Tu parlais que t'avais des blessures tout à l'heure, tu vois. Peut-être ouais. Que c'est à ça qu'ils servent aussi.
Ouais. Non, mais c'est sûr, mais je sais pas, je trouve que... En fait, d'un côté, elle dit des trucs... En fait, c'est pour ça que je partageais, c'est parce que j'ai lu son livre. En gros, elle identifie cinq blessures. Abandon, injustice, rejet, trahison et humiliation. Et je me suis tellement reconnue. Je crois que c'est les blessures d'injustice et de trahison. Et je crois que, genre, en gros, injustice, c'est une forme encore plus forte que le rejet. Et dans, après, les masques, donc en gros, elle a théorisé un peu des masques, donc des comportements que t'adoptes par rapport à ces blessures. C'était tellement vrai que je me suis dit, putain, cette meuf est incroyable. Mais après, elle part tellement loin que je me dis, genre, wow. Est-ce que... Et donc après, bon, Jonathan Lehmann, il parle de shopping spirituel, tu vois.
Ouais.
Faut un peu piocher dans ce en quoi tu crois et ce qui est un peu trop perché pour toi. Donc voilà, moi, je pense qu'elle a vraiment raison là-dessus, parce qu'en plus... Bah, c'est deux blessures qui sont avec un parent différent à chaque fois, et je sais que j'avais des problèmes avec mes deux parents, donc ça explique vraiment vachement de choses. Après, le problème, c'est qu'elle explique pas hyper bien, je trouve, comment tu te guéris. Donc c'est déjà pas mal hein, de les connaître, mais après, le but, c'est d'aller mieux. Mais voilà, en tout cas, livre intéressant et théorie intéressante, mais peut-être que l'épigénétique est justement une des réponses à comment tu te guéris de ces blessures et comment tu... Bah, t'arrives à changer justement peut-être ces comportements ou ces traumas que t'as intériorisés.
J'avais vu ce documentaire qui s'appelle The Work, où c'est des groupes de mecs dans une prison ultra haute sécurité aux États-Unis, etc. Et en fait, ils se retrouvent pour discuter de leur, justement de leur trahison, en fait. Et il y en a un qui pose la question, et j'avais envie de te la poser. T'as souvenir de ta première trahison, toi ?
Je ne crois pas avoir le souvenir de ma première trahison.
Okay.
Je ne crois pas. Le mot est vraiment fort. Et tu vois, même moi, si j'avais pas lu le livre, j'aurais pas eu l'impression d'avoir été trahie par mes parents. Mais après, quand tu creuses, tu peux dire « Ah oui, il y a ça, il y a ça ». Mais non, je pense que, tu vois, spontanément, je penserais à des histoires d'amitié. Parce qu'encore une fois, du coup, c'est très important quand t'es jeune. Donc des amis qui te font un peu des coups bas. Mais à date, je touche du bois. Je touche vraiment du bois pour les gens qui me voient pas. Je n'ai pas eu de trahison comme dans les films, tu vois. Ou comme dans la série dont tu parles. J'ai pas eu de couteau dans le dos. Les gens sont chelous quand même à trahir. Moi, c'est pas dans mon système de valeurs, tu vois. Donc, Ça t'est arrivé, toi, d'être hyper méga trahi?
Bah, moi, je me souviens d'un truc, par exemple. Je me souviens que quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, je l'ai vraiment vécu comme une énorme trahison, c'est-à-dire vraiment comme un gros mensonge de... Ah oui, donc en fait, ça veut dire que vous, les adultes, vous pouvez vous mettre tous ensemble. Il y a un connard de la famille, un oncle qui se déguise pour nous faire croire que le Père Noël existe. Et nous, on est comme des connards à faire « le Père Noël !» Et un coup, et puis un jour, on te dit « En fait, ça n'existe pas. » Et là, je me suis vraiment dit « Mais what the fuck ?»
J'avoue, hyper intéressant. Écoute, moi, peut-être, parce qu'en plus, j'adore Noël depuis toujours. Et en plus, moi, c'est très triste. Je l'ai appris très tôt parce que j'ai une grande sœur. Donc, j'ai une sœur jumelle et une grande sœur. Et ma grande sœur a un an et demi plus que nous. Et elle est arrivée un jour. Donc, elle devait avoir 7 ans et nous, 5, tu vois. Parce que, bon, bref, 5 ans et demi. Et elle arrive en disant, ouais, à l'école, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Mes parents n'ont pas cherché à démentir. On était là. Et donc, on a appris avec Camille à 5 ans que le Père Noël n'existait pas. Et... J'avoue, maintenant que t'en parles, je me souviens d'une déception. Après, est-ce que c'était une trahison? Je ne sais pas. Peut-être justement, j'étais tellement jeune que j'avais pas encore eu le temps de, tu vois, vraiment me rendre compte de ça, de ce que ça impliquait, etc. Ce rapport de confiance que t'avais placé en une personne, mais j'étais déçue.
La déception.
Ouais.
Bon, très bien. Reparlons un peu de justement ton arrivée vers les internets. Quand est-ce que tu découvres Internet, toi?
Je pense que je découvre Internet avec MSN.
Okay.
Ouais. Je pense, je me souviens du film LOL qu'on avait vu avec mes grands-parents. Hyper gênant. Il y a plein de scènes de sexe. C'était hyper gênant. Je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Et voilà, c'était l'époque des Wiz. Enfin, tu vois, donc c'est MSN. J'en ai parlé récemment, je sais plus à qui, que j'ai commencé sur les réseaux. En fait, j'ai oublié un peu pendant longtemps. Mais je crois qu'à 11-12 ans, Marmiton avait un truc qui s'appelait Marmikid.
Ah.
Où en fait, j'avais un profil Marmikid. Et où en fait, plus t'avais de gloutons, plus t'étais connu.
Ah.
Et je sais plus comment t'avais des gloutons, si les gens t'en donnaient, si il fallait poster des recettes. Et donc, comme depuis déjà très jeune, je souhaitais être journaliste, à 11-12 ans, j'ai créé, c'était un peu un profil, un mini-blog sur Marmikid. Et j'étais assez reconnue dans la communauté Marmikid. Ouais, et j'avais même deux très bons amis, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et j'ai même oublié mon pseudo Marmikid. Peut-être Loulou Berry, un truc comme ça. Mais donc, tu vois, il y a un terreau. Il y avait une expérience. J'avais kiffé, puis j'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Puis j'avais le contrôle parental en plus, donc c'était chiant, je pouvais pas vraiment aller souvent sur l'ordi. Et donc voilà, donc je pense assez jeune, 11, 12, 13 ans. Et voilà, j'ai pas été accro direct. Parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux encore.
Ouais.
Je pense que les réseaux sociaux sont arrivés quand j'avais petit calcul mental, plutôt 14-15 ans. J'ai eu Facebook à 13 ans.
Ah ouais?
Ouais. L'âge légal.
Ouais. Tu te souviens comment tu t'es dit « Ok, je veux aller là-dessus » Ça faisait partie un peu...
Alors aussi. Facebook, c'était vraiment un effet de mimétisme social.
Ouais.
C'était vraiment mes potes avaient Facebook, je voulais un compte Facebook... Et là, j'ai rien fait de spécifique à part partager des photos comme on faisait tous. On s'écrivait. Si, il y avait un peu ce truc quand même de popularité aussi qui te définit énormément quand t'es au collège-lycée, où il fallait avoir le plus de messages possibles sur ton mur.
Ah yes.
Et donc en fait, on se répondait sur le mur de l'autre. Ce qui est absurde quand on y pense. L'espace commentaire sert à répondre. Mais non, on voulait avoir plus de messages sur notre mur, donc on se répondait par mur interposé.
Mais j'allais dire, t'es sûr qu'il y avait déjà des espaces commentaires à l'époque, mais peut-être que oui.
Peut-être que non, c'est... Okay. Peut-être que non, I don't know.
Moi non plus. Ok, donc t'es rentré par Internet, enfin par les réseaux sociaux, par Facebook?
Par Facebook, mais voilà, à titre personnel, et Insta, c'est arrivé après. Je sais pas quand j'ai créé mon compte Insta. Au début, c'était un compte perso. Et en fait, tout est né d'un déclic, enfin d'une nouvelle passion. En fait, je pense que... Donc, je suis quelqu'un qui m'en rendait pas compte à l'époque, mais qui est très... à 100% dans un truc.
Tu ne savais pas à l'époque?
Non, je ne savais pas à l'époque, tu vois. Finalement, je n'en avais pas encore conscience.
Okay.
Et qu'en fait, en fait, je pense que quand j'étais jeune, je ne l'avais pas forcément. C'était à la fois la lecture, à la fois la gymnastique que je faisais au niveau, mes potes et tout.
Quoi? Tu faisais de la gymnastique à haut niveau? Tu n'en as pas parlé?
Ouais, j'ai fait de la gymnastique rythmique à haut niveau. Mais bon, après, je me suis arrêtée à 14 ans, donc ce n'est pas non plus aller très loin. Ouais. Mais on est en compétition, quoi. C'était très cool.
Tu kiffais la compète?
Pas tant que ça. pas tant que ça. Et en fait, c'est assez triste aussi, ce qu'on dit souvent avec ma sœur. Après, peut-être le problème, c'est qu'on se l'est trop répété, mais on se souvient juste que quand on levait la tête, nos parents, ils étaient en train de lire dans les gradins. Donc, assez violente, tu vois. Donc bon, on ne se sentait pas non plus hyper soutenu.
Mais ça veut dire que vous le faisiez aussi en tant que môme pour vos parents ?
Non, bah oui, enfin, tu cherches la reconnaissance de tes parents quand t'es enfant, tu vois. Et quand tu lèves la tête et que tu vois que tes parents sont en train de lire et que souvent, ils se refilent un peu, oh, c'est toi qui vas les emmener, oh, non, c'est toi, oh la flemme, tu vois. Bon. Donc voilà, mais c'était une belle expérience quand même, la gymnastique rythmique. Ça t'apprend quand même des belles qualités, des belles bases de dépassement de soi, etc. On essayait quand même, en plus, t'es en équipe, donc c'était quand même cool. Enfin, on faisait individuel et équipe. Mais donc, ça pour dire que, après, ça a été vraiment la préparation de Sciences Po. Je pense que c'est le premier truc qui m'a vraiment vachement. Auquel je me suis vraiment consacrée à 100%. Et donc, une fois que je l'ai atteint, je pense que j'ai une période de flottement, mais bon, en soi, que j'ai assez bien vécu, hein, parce qu'en plus, c'est la découverte de l'école et tout. Mais donc, cette même année, ma grande sœur, qui avait pris un peu de poids, m'a dit, écoute, regarde, j'ai découvert ce compte Instagram. Donc, c'est le compte d'une blogueuse fitness, Kayla Itines, qui partageait des avant-après absolument incroyables. Elle a fait un programme, regarde les avant-après et tout. Et moi, je disais, non, j'y crois pas. C'est pas possible, c'est retouché, tu vois. Elle me disait, mais non, regarde le compte des personnes et tout. Et c'est vrai que au final, ça a l'air d'être vrai. Du coup, elle m'a dit, écoute, je veux pas qu'on achète son programme ensemble et qu'on le fasse. Et comme moi, j'avais pris un peu de poids aussi parce que j'ai pris la pilule, tu vois, je lui ai dit, ok. Et en fait, je rentrais à fond dedans. Genre vraiment à fond
étonnant.
Dedans. Les deux pieds, les deux bras, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai vraiment découvert la communauté fitness, bien-être, tout ça sur Instagram. Parce que personne dans mon entourage était dans le délire. Surtout qu'en plus, moi, j'avais. Enfin, elle avait acheté aussi l'e-book de nutrition. Donc j'avais tout lu par rapport à la nutrition. J'avais jamais vraiment été sensibilisée par mon entourage. Donc j'avais l'impression de découvrir une science, voir des aliments, quoi.
Faut rappeler pour les plus jeunes qu'il y a 5 ans, donc, Insta n'avait strictement rien à voir avec l'Insta d'aujourd'hui, quoi. Il y avait vraiment.
Moi, tu vois, j'ai pas l'impression que c'était si différent. Il y avait des influenceurs.
Mais il y avait pas, tu vois, tous les comptes Insta aujourd'hui qui servent à militer, à dénoncer.
Non,
c'était plutôt.
Vrai.
C'était hyper tourné autour des photos.
Oui. Il y avait pas de vidéo, je pense.
Il y avait pas de vidéo.
Il y avait pas de stories.
C'était. Et effectivement, il y avait une grosse partie de la. D'Insta qui était autour du fitness aussi,
ouais.
Autour du yoga et qui commençait déjà un peu à percer,
ouais.
À l'époque.
Ouais.
Mais c'était pas vraiment. Enfin, tu vois, pour moi, c'est
non,
pas le même
raison.
Insta qu'aujourd'hui.
T'as raison, je pense que je m'en rends même pas compte, moi.
Ah, ok.
Ouais. En fait, enfin, je me rends. Parce que quand j'ai lancé mon compte, comme je l'ai lancé vraiment juste moi pour partager avec d'autres créateurs de contenu, enfin, plutôt pour partager ma passion, mon centre d'intérêt avec d'autres personnes.
Mais qu'est-ce qui te donne envie de créer ton compte et de te dire, tiens, en fait, je me lance dans le fitness et je vais me mettre en scène quelque part, quoi.
Alors, c'était vraiment cette recherche de partage, de centre d'intérêt avec d'autres personnes.
Okay.
En fait, je suivais, moi, du coup, des créatrices de contenu quand je suis rentrée dans le truc. Et j'aimais trop, en fait, interagir avec elles, sauf que j'avais un compte perso. Et donc, en fait, elle ne me répondait pas forcément. Il n'y a pas ce truc de hey, « Eh, moi aussi, j'ai la même passion que toi, tu vois. »
Ah, c'était pour rentrer dans le game.
Ouais, je voulais vraiment, en fait, juste leur dire « Moi aussi, je partage cette passion et venez, on en parle. » Je pense peut-être que je ne l'aurais pas eu si j'avais un groupe d'amis, tu vois, qui avait été dans le délire fitness, mais vraiment, personne dans mon entourage ne l'était. Et du coup, je me suis créé un compte, à la base en anglais, My Better Self, donc vraiment 100% en anglais, hein, parce que j'avais vraiment cette espèce de jugement de valeur. Mais parce qu'en même temps, il y avait deux niveaux d'avancée très différents. Où t'avais d'un côté le monde anglo-saxon, qui était déjà dans le hashtag Strong Not Skinny. Donc, ils étaient très plutôt fitness, muscu, les femmes, il faut qu'elles soient fortes. Et vraiment, genre, je le dis toujours en rigolant, mais c'était vrai. Je pouvais taper un hashtag genre fitness, tu vois, et je pouvais te dire si la photo c'était une photo d'une française ou d'une américaine ou d'une anglaise. Parce que la française, c'était toujours, mais juste à travers la photo, hein, dans le punitif, genre la photo de ces trucs Weight Watchers, toujours dans la perte de poids, toujours dans prendre le moins de place possible. Et je me reconnaissais pas du tout dans ce message-là. Et personne ne partageait un message d'empowerment à l'époque dans le monde fitness en France. Donc j'écris ça en anglais. Et en fait, assez rapidement, on m'a dit mais t'es française. Et je suis là où ouais.
My name
ouais,
is Louise, tout à fait.
Et même des Français, tu vois. Et ils m'ont dit, pourquoi tu n'écris pas en français ? Et je ça vous intéresse ? Ok. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai fait anglais et français. Ce qui demande vachement de travail, surtout que j'ai commencé à entendre des légendes dès le début hyper longues. parce que je voulais vraiment apporter de la valeur, tu vois. Je me suis vraiment dit, bah, je suis en train d'apprendre plein de trucs. J'ai envie de le partager. J'avais vraiment l'impression de découvrir un monde, tu vois, et de découvrir une vérité presque. Donc,
c'est trop drôle parce que moi, ton compte me fait penser un peu à un blog, tu vois. C'est-à-dire que parfois, je lis certains de tes posts et j'avais envie de te dire, crée un blog, frère. En fait,
ouais.
Parce que, en fait, t'écris tellement.
Ouais,
mais c'est très bien, hein, je trouve. Mais je me disais à un moment donné, mais Insta n'est pas fait pour écrire autant, quoi, tu vois, parce que c'est compliqué à lire. Même pour le créateur, c'est ultra chiant à mettre en page, en fait. Mmh. Tu vois, c'est pas fait pour. Alors là où t'as un blog, t'as tout fait.
Ouais.
T'as les outils pour, quoi, tu vois.
Mais je m'étais posé la question, mais ouais. En fait, quand je me suis lancée dans Readymed, mais juste quand j'ai créé mon compte, c'était déjà trop tard, les blogs. Et même moi, à la base, j'adore écrire. Hein. Je préfère écrire que me prendre en photo, mais alors de loin. Et en fait, même quand je suis entrée à Sciences Po, j'ai toujours voulu être journaliste. Moi, je voulais être journaliste dans la presse écrite. Il y avait un truc, je ne me voyais pas du tout écrire sur l'ordinateur. Et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois, là, j'ai quasiment fini mon livre, qui sort normalement fin février.
Oui.
Et j'ai tout écrit à la main.
J'ai vu dans tes...
Pour moi, ça m'enlève un énorme plaisir de taper sur l'ordi. Les mots me viennent moins facilement, ma réflexion se déroule moins facilement. Alors, je me suis un peu habituée avec les légendes, tu vois, sur le téléphone, donc j'arrive à... Mais j'ai vraiment besoin d'écrire, c'est pour ça que mes légendes sont toujours... Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas, parce que j'arrive à faire passer mes messages par vidéo. Mais ça a été vraiment un exercice pour moi, parce que moi, si j'avais pu avoir un blog et ne faire qu'écrire, je l'aurais fait, tu vois, mais j'avais déjà cette conscience que c'était fini, quoi. Alors qu'en plus, il y a 5 ans, ça n'était pas tant que ça, mais...
Ça
mais comme j'en lisais pas, en fait...
C'était déjà de ouf.
Ouais, comme j'en lisais pas, je me disais, bah, ok, personne va me lire, tu vois. Et il n'y avait vraiment pas ce côté partage que j'aimais avec les réseaux. En tout cas, je ne le voyais pas autant.
T'as pas connu l'époque des blogs où tout le monde partageait les blogs de tout le monde, en fait. C'était ça le...
C'était il y a longtemps, les enfants.
Ouais, ouais.
Enfin,
j'ai connu un peu, mais comme c'était vachement mode, et que j'aime la mode, mais pas plus que ça, je me souviens juste que je suivais un peu le blog de Christina Bazan. Voilà. Sinon, c'est vrai que ça m'a jamais trop... J'avais pas de blogueuse dont j'étais fan...
Mais il y avait plein de blogueurs business, de blogueuses business, peut-être un peu moins, je sais pas.
Ouais, mais surtout que, donc moi, à cet âge-là, bah, c'était plutôt 12-13 ans.
Bah oui, t'étais...
Tu t'intéresses pas au blog business.
Tout à fait.
Ou alors, tu es vraiment très en avance pour ton âge.
On va pas juger si tu as 12 ans ou 13 ans que t'es en train de monter ton business, let's go, quoi, tu vois.
Go for it. Mais tu sais que, on en parle, c'est marrant, mais là, j'ai un petit livre, je crois que je vais en faire une story parce qu'il est vraiment trop chou. J'ai reçu, enfin parce que bon, évidemment maintenant on me demande pas mal de participer à plein de trucs, tu vois, des conférences, des interviews, etc. Et donc malheureusement je refuse beaucoup parce que j'ai très peu de temps libre. Et bah, mon agent m'a partagé quand même un mail d'un mec de 14 ans qui m'a envoyé sa carte de presse junior Marco Investigation. Et ça m'a tellement touchée parce que vraiment je me suis revue. J'avais créé aussi un journal quand j'étais au collège qui s'appelait Cheval Express avec une amie. Elle était passionnée d'équitation, moi non, mais j'adorais écrire. Donc je faisais tous les articles, toute la mise en page et tout. Et donc je me suis vraiment dit, fou, j'envoie de la force, tu vois. À 14 ans, et donc là, je montrais son petit livret.
Ah, c'est cool.
Il a fait un reportage sur la mode responsable. Enfin, vraiment, je me dis, waouh, quoi. Il est hyper engagé contre le climat, et enfin pour la protection de l'environnement. Et je me dis, c'est tellement cool qu'il y ait des jeunes de 14 ans, déjà, qui... Ça donne tellement d'espoir, tu vois, pour les enjeux et la génération à venir. Que voilà, je sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais
force
à tous les jeunes et même moins jeunes qui nous écoutent. Mmh. Il n'est jamais trop tard, franchement.
J'allais dire, moi j'ai un gamin qui à 12 ans m'envoyait des messages, me harcelait pour que je lui fasse rencontrer des stars, les gens que je connaissais, etc. Parce qu'il voulait les interviewer, c'était Panayotis Pasco, quoi.
Non,
si, je te jure.
Énorme, tu
il
sais
a commencé
que...
comme ça.
Mais c'est génial parce que je vais avoir son podcast et donc j'ai une super anecdote
ah ouais,
à lui sortir de but en blanc, début de podcast, Panayotis. Je sais ce que tu faisais à 12 ans. Tu harcelais Fabrice Florent. Il va pas comprendre.
Tu peux écouter notre épisode qu'on a fait ensemble. Il est
bah génial. J'ai vu son spectacle là il y a pas très longtemps.
Écoute, oui. Bref, tout ça pour dire que les jeunes, bravo. C'est bien. C'est,
ouais.
C'est important. Pour revenir à toi. Donc, tu lances effectivement ce compte. Et c'est à partir... Quand est-ce que ça switch ce truc entre... Ok, en fait, je vais me lancer dans le fitness et en mode, je suis bonasse, vous allez voir, je vais faire en sorte de m'améliorer et tout, pour aller jusqu'à on veut du vrai.
Ouais, c'est vrai qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, en fait, j'ai l'impression que je vis pas
c'est
mal...
juste que ça fait 37 minutes et qu'il...
Merde
bah oui,
putain, désolé, Caris.
On parle.
En plus, j'aimerais vraiment bien rester 12 heures, mais après, oui. Une grosse excuse qu'on peut pas lancer sur un truc que j'ai à faire plus tard, mais vous le saurez très bientôt.
Moi, je le sais, mais bon, je peux pas le dire.
Voilà, mais écoute, en fait, j'ai l'impression que... Je crois que je vis les choses très vite. C'est-à-dire que j'entre dans cette phase de fitness à fond, j'entre dans un piège qui s'appelle l'orthorexie, où en fait je contrôle vraiment à fond ce que je mange, mon sport. Si je mange pas hyper sain, je me sens pas bien. Si je fais pas, et j'en ai pas conscience à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, je suis juste dedicated. Pour moi, c'est juste de la rigueur, tu vois. Mais voilà, c'est encore une fois le défaut d'une qualité.
L'intensité de la personne,
j'étais à fond. Donc bon, c'était un extrême, mais je me rends compte grâce à ces fameuses créatrices de contenu fitness que je suivais, pareil dans le monde anglo-saxon, qui sont tombées dans le même extrême, qui en sortent et qui me font réaliser que je suis dedans. Donc en fait, à partir de là, je commence à suivre plus de personnes qui parlent de body positive, je rentre plus dans la muscu et moins dans le cardio. C'est con, mais c'est déjà une différence énorme, tu vois. Donc c'était moins pour le physique que vraiment juste pour me sentir mieux et plus forte que je commence à le faire. Et donc voilà, je commence à découvrir le body positive.
C'est un vrai truc, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un vrai truc de le sport, c'est fait pour aller bien, pour être bien dans son corps.
Ouais.
Là où en France, on se dit, ok, le sport, c'est fait pour la performance, machin. Quoi.
Ouais. Et c'est même un truc, tu vois, où maintenant, alors j'en fais vraiment moins, mais j'en fais encore, mais je le partage plus du tout parce que même moi, j'ai peur qu'après, on me reproche le côté. Alors soit qu'on me dise, ouais, si tu bouffes autant. Enfin. Parce qu'on me l'a sorti, tu vois, on m'a sorti des « ouais, non, mais en même temps, tu peux te permettre de manger autant parce que tu fais vachement de sport », ou alors « ouais, comment je peux parler d'acceptation de soi alors que tu fais du sport ?» Enfin, il y a cette espèce de dichotomie qui n'a pas lieu d'être, où moi, je fais vraiment du sport pour ma santé mentale et mon bien-être physique aussi, tu vois, mais vraiment pas dans un objectif de poids aujourd'hui. Vraiment, j'ai totalement fait la paix avec mon corps et j'ai d'autres batailles à mener. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, c'est un peu antinomique, et donc je suis un peu entrée plus après dans cette phase d'acceptation de soi, parce qu'en fait, j'ai juste commencé à partager. Enfin, j'ai toujours partagé ce qui me tenait à cœur. Donc, quand le fitness et la bouffe me tenaient vachement à cœur, c'est ce que je partageais. Quand j'ai pris du poids et que j'ai commencé à partager cette prise de poids sur les réseaux et que j'ai vu que j'ai reçu pas mal de messages de filles atteintes de troubles alimentaires qui me disaient, bah, franchement, merci. En fait, j'étais un peu, c'est con à dire, mais une des premières à partager les, tu sais, Real VSFI.
Oui.
En tout cas, en France.
En France, oui.
Et en fait, j'ai vu que ça faisait vachement bien aux gens. Et en fait, je me suis dit, mais trop cool. Enfin, il n'y a rien de plus gratifiant que de recevoir un message d'une personne qui te dit « Merci, tu m'as aidé ou tu m'aides. » Et vraiment, donc, ça m'a apporté tellement de bien. Donc, à la base, c'était limite égoïste. Hein. C'est que je me suis dit, mais attends, je vais continuer à essayer d'apporter du bien aux autres, quoi. Et donc, là, je suis entrée vraiment dans ce chemin de l'acceptation de soi, à partager plus des contenus... body positive. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec cette étiquette parce que...
Pour expliquer aux gens, le body positive, ouais. C'est un peu ce truc de regarde, en fait, j'ai de la cellulite, j'ai des bourrelets, j'ai des plis, mais en fait, c'est mon corps et puis voilà, quoi, ouais. Tu vois, pour les gens qui ont pas.
En fait, même le body positive, et c'est là où aujourd'hui j'ai du mal avec l'étiquette que certaines personnes mettent encore, c'est que, bon, ça a été créé par des personnes grosses, et j'utilise ce terme en toute objectivité parce que ça devrait être utilisé en toute objectivité, qui revendiquait le droit d'exister. Et au début, je ne comprenais pas les reproches qu'on pouvait me faire, parfois, mais tu te souviens toujours plus des reproches que des compliments. Ouais, t'es super mince et tu parles body positive, c'est facile pour toi. En fait, ça me faisait mal parce que bah, y a pas de monopole du complexe, tu vois, et je continue à le dire. Mais c'est vrai que, alors déjà, il y a un peu l'injonction du coup à t'aimer quand tu fais le body positive, à aimer ton corps. Ou en fait maintenant, moi, mon discours, c'est plus de dire le corps, c'est pas du tout qui tu es. Mmh. Et notamment pour les femmes à qui on réduit vachement leur existence à leur apparence physique. En fait, je préfère aujourd'hui, s'il y a une étiquette à mettre, le terme de body neutrality, parce que déjà. Peut-être que les personnes grosses se réapproprient le mouvement body positive parce que je peux comprendre la violence d'une meuf qui fait, je sais pas combien je pèse parce que je me pèse plus, mais qui est mince selon les standards de la société et qui est là à dire acceptez-vous, tu vois, même si ça a aidé des gens et j'en suis ravie. Mais maintenant, c'est vrai que je parle plus de body neutrality, genre, faut que vous êtes tellement plus que votre corps en fait. Mmh. Ouais, aimez-le, c'est cool, mais en fait, juste, il n'y a même pas pour moi d'étiquette à porter en fait sur votre corps, de jugement, de c'est pas grave s'il y a des jours où tu t'aimes moins, c'est normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait mes prises de parole se sont pas mal élargies autour beaucoup du féminisme, parce que c'est venu aussi avec toute cette déconstruction de, à la base ça a été par le poids, Donc j'ai découvert toutes les injonctions qui pesaient sur les femmes par rapport au poids. Et puis après, ça a été par rapport à l'apparence physique. Puis après, ça a été par rapport aux vêtements qu'on porte. Et donc voilà, un cheminement.
Bah, tu tires un fil et en fait, je tire un fil la pelote qui vient.
Et je pense qu'il y avait un côté peut-être un petit peu... c'est quoi à dire, mais peut-être philosophique, tu vois, qui me manquait dans la... dans... où je sentais que je voulais pas, moi, personnellement, et je respecte les personnes qui l'ont fait, mais être créatrice de contenu fitness ben, pour ma carrière. Et il me manquait un peu de profondeur. Et je l'ai vraiment trouvé en parlant beaucoup plus sur des sujets de société, en réfléchissant, en essayant de faire bouger les choses. Et voilà, c'est ça qui me nourrit vachement aujourd'hui, quoi, de parler aussi bien de mode responsable, de comment on peut essayer de faire mieux, de féminisme, d'entrepreneuriat.
L'égalité et... femme-homme aussi,
ouais,
c'est un truc qui revient très souvent en ce moment.
Ouais, ouais.
Les hommes contre les meufs.
Ouais, ouais. En fait, je trouve ça marrant de... Et en plus, bon, parce que y a... si, je sais pas, hein, si ton podcast est écouté par autant de mecs que de meufs, mais...
plein de gens.
Tu vois, s'il y a des... parce qu'il y a des mecs qui regardent mes reels, il y a toujours un homme pour commenter. Ouais, mais les mecs aussi, je sais... Je sais, mais juste moi, je parle de la réalité que je connais.
Bah oui, bien sûr.
Et donc, c'est dommage, je trouve, qu'il y ait parfois des personnes qui interprètent mal. C'est pas parce que moi, je fais des reels, des vidéos, des posts sur les injonctions qu'on subit en tant que femme que je dis que les mecs n'en subissent pas.
Le truc, c'est que pour l'instant, je crois que les mecs, ils ont du mal à faire des reels pour venir raconter les injonctions qu'ils subissent, parce qu'en fait, il y en a aussi, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est vachement plus politiquement compliqué de venir faire un reel, tu vois, comme tu le fais toi, mais si on le sortait dans l'autre sens, je suis pas sûr que ce soit aussi bien...
Alors, clairement, dans l'autre sens, à mon avis, ce sera mal reçu parce que le patriarcat est une réalité, et du coup... comme les hommes ont eu cette domination pendant des siècles et continuent à l'avoir, je suis pas sûre que la façon dont je le fais, à savoir si on parlait aux hommes comme on parle aux femmes, donc si on parlait aux femmes comme on parle aux hommes, serait bien reçu. En revanche, si c'est juste des reels, ce qui est relou quand t'es un mec aujourd'hui, donc de pas pouvoir pleurer, de pas pouvoir afficher des émotions, de devoir garder la face, mais of course. Je suis la première à le soutenir et voilà, je suis la chance d'être dans une relation de couple où du coup il y a pas du tout, je trouve, ces rôles. Parce que ce sont des rôles,
ouais, bien sûr.
C'est le sujet de mon livre. Ce sont des constructions sociales qu'il faut apprendre à déconstruire, je pense, pour le bien-être de tous et de toutes.
Mais j'imagine que ton gars, de toute façon, il est obligé de filer droit. Quoi.
Ouais. He doesn't have a choice. mais où, après, il m'a connu, j'avais déjà lancé My Better Self, tu vois, donc il savait dans quoi il s'embarquait.
Il savait où il allait.
Ouais.
T'as aussi embrassé ta vie de girl boss, parce que désormais t'es girl boss. T'étais déjà girl boss quand t'étais en tant que My Better Self, mais là tu t'es vraiment lancé dans la création d'une marque et d'une boîte.
Ouais.
La prise de décision vient d'il y a 2 ans maintenant, c'est ça ?
Écoute, août 2019.
Voilà.
2 ans et demi presque.
Et t'as lancé la marque il y a un an.
Il y a un an, tout juste. J'ai bossé 1 an et demi dessus à fond, solo. Et Pauline Massiliste après, mais ouais.
T'as lancé ta marque de lingerie inclusive.
Et éthique.
Et éthique, pardon.
T'inquiète.
C'est important.
Et si on veut être hyper précis, c'est même confortable et flatteur. C'est les 4 engagements qu'on essaye de respecter.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la lingerie comme ça ?
Alors.
Parce que c'est un délire, la lingerie. Enfin, j'imagine que tu t'en es rendu compte.
C'est un délire. J'en ai rendu compte après.
Oui.
Et tu sais, il y a cette phrase un peu, les entrepreneurs, si j'avais su sur quoi je m'embarquais, je suis pas sûre que je me serais lancée.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Et moi, j'interviewais déjà des entrepreneurs sur mon podcast. Et je me disais toujours, oh, c'est un peu des mythos, en vrai, ils voulaient se lancer, sinon ils ne l'auraient pas fait. Et en fait, alors franchement, j'avoue qu'une fois que tu connais toutes les galères, bon, alors notamment que la lingerie, fin, c'est tellement compliqué, aucune poitrine n'est pareille, tu vois. Voilà, je pense que je me lancerai quand même parce que c'est une aventure fabuleuse et que voir que je réponds à un vrai besoin et que les personnes qui achètent les sous-vêtements je ne sais quoi en sont ravies, ça fait trop du bien. Mais donc pour te répondre, je ne me destinais pas du tout à la création d'une marque. De vêtements en tout cas, je viens pas du tout du monde de la mode, encore moins de la lingerie, mais en fait j'avais une problématique qui était que je ne trouvais pas de sous-vêtements à la fois beaux et confortables. À la base c'est parti de là, et peut-être les meufs qui m'entendent et qui m'écoutent en ce moment pourront comprendre ce que je ressentais, c'est souvent l'un ou l'autre. Et quand par hasard je trouvais des sous-vêtements qui étaient assez jolis et assez confortables, ils étaient très rarement faits de manière responsable et très rarement inclusifs, donc ils s'adressent à tous les corps. Et moi qui ai une morpho très standard.
Quand tu parles de tous les corps, tu veux dire toutes les tailles, quoi, c'est ça ?
Toutes les tailles, mais même tous les corps, tu vois, c'est-à-dire des trucs petit buste, grande poitrine, l'inverse. En fait, il y a beaucoup de poitrines qui sont genre éliminées du monde de la lingerie parce qu'elles sont pas standards ou mainstream, mais ce qui veut rien dire, parce que enfin c'est relatif, quoi. Et en fait, comme j'avais ce combat sur les réseaux déjà, j'avais vraiment, moi, eu cette prise de conscience de la discrimination, juste de la représentation des corps, donc même dans mes campagnes, tu vois. Enfin, en fait, je commençais déjà à avoir l'idée de sous-vêtements, en fait, de faire les choses autrement, de oser montrer la diversité des corps, de s'adresser à tout le monde, parce que tout le monde a le droit d'avoir des sous-vêtements confortables, flatteurs, éthiques et inclusifs. Et donc, en fait, je me suis censurée pendant quelques mois. Et en fait... un moment, en fait, tu vois, on devait faire une césure. Enfin, on devait faire une césure. Tout le monde fait une césure entre les deux années de master, c'est pas obligatoire en soi. Mais j'avais aussi envie d'en faire une parce que, bah, mine de rien, master 1 plus My Better Self en parallèle avec le compte Instagram, la chaîne YouTube, le podcast, ça faisait déjà beaucoup. Et je me suis rajouté un truc du coup, mais je me suis dit, faisons une césure où je m'étais dit, c'est génial, je vais avoir tellement de temps maintenant que j'ai pas les cours pour me consacrer à mes projets. Et donc, le plan était de lancer la marque en décembre 2019. Lols, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que à la fois j'avais sous-estimé le travail que ça demandait, à la fois la Covid, j'y arriverais pas, mais est passé par là. Et donc en fait, je suis arrivée en Master 2, ouais, j'avais pas encore lancé je ne sais quoi, mais c'était très avancé. Et j'ai repris les cours et j'ai continué à faire ma création de contenu en parallèle. Mais on a lancé je ne sais quoi officiellement en novembre 2020. Et c'est une aventure folle. C'est vraiment de loin le challenge le plus dur que j'ai eu à relever. De ma vie, je sais pas, mais j'ai envie de dire si, et du coup ça fait hyper privilégié de dire ça aussi, tu vois, parce que c'est un challenge juste personnel de merde à gérer tous les jours, mais dont, tu vois, il n'y a pas de vie en jeu, mais c'est juste vachement difficile quand j'ai pas eu de formation entrepreneuriale, tu vois, de devoir te démerder face à plein de galères que t'as jamais eues, et à garder ton sang-froid, et à garder la pêche, à garder l'énergie, et où en fait t'as des pics d'énergie quand t'as plein de high et de gens qui te disent c'est trop bien ce que tu fais, j'adore mes sous-vêtements, et t'as des downs quand t'as des messages de filles énervées parce que la commande elle a du retard. Enfin, tu vois, c'est vraiment des montagnes russes, mais c'est une belle aventure quand même.
Je crois que tu peux pas mieux définir l'entrepreneuriat que t'as des high et t'as des downs, mais tu peux en avoir 10 dans la journée, en fait. Tu peux avoir 10 variations dans la journée, quoi.
Ouais. Franchement, il faut avoir vraiment les épaules bien accrochées. Et c'est pas ça l'expression, si ? Le cœur bien accroché, putain, Louise, ouais. Les épaules, mais...
Les épaules larges, je sais pas, non ?
Désolée, c'était le cœur. Louise, n'oublie pas le cœur. mais je pense qu'il faut vraiment avoir un pourquoi. Pourquoi, je sais que c'est ce qui m'aide. Et c'est pour ça que...
Quand tu dis pourquoi, c'est il faut que tu aies une raison qui fait que...
Il faut que tu aies du... Enfin, moi, je pense, hein, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais, il faut que tu répondes à un besoin. Et je me demande comment les personnes qui lancent des boîtes juste pour le kiff, tu vois, pour la gloire ou pour plein d'autres raisons, arrivent à tenir dans les moments difficiles. Parce que moi, sans mon pourquoi, sans la volonté de m'adresser à tous les corps, à toutes les femmes... et personne qui se considère comme telle, j'aurais lâché, quoi. J'aurais lâché, il y a trop de merde. Non, mais c'est vrai, disons-le, tu vois. Parce qu'on glorifie vachement l'entrepreneuriat, et parfois, moi-même, j'essaye de montrer les hauts et les bas, mais sûrement quand même, parfois, je participe à cette surmédiatisation et glorification de l'entrepreneuriat, mais non, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, et franchement, même, tu vois, niveau santé mentale, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est quand même très anxiogène.
Oui, oui, carrément. Et je crois qu'il faut être bien entouré et avoir des gens qui sont capables de te dire aussi « Hey, t'es en train de partir en couille, là. »
Ouais, carrément.
Va donc en retraite pendant une semaine. Et hop, là, on boucle.
Tiens, par hasard. On me l'a pas dit. On me l'a pas dit, tu pars en couille. Mais c'est moi-même, tu vois, c'est introspection. Enfin, de moi-même, je me suis dit... Je me rends compte, tu vois, que quand tout ne va pas comme j'ai envie que ça se passe... Je le vis vraiment mal.
T'as personne autour de toi qui joue ce rôle-là, pour l'instant en tout cas.
Mes sœurs me l'ont un peu dit. Quoi. Alors mes sœurs me l'ont un peu dit il y a 2 ans, et j'étais dans un déni total parce que j'allais très bien. Et c'est quand t'as des moments difficiles que là tu te rends compte qu'elles ont peut-être raison. Donc mes sœurs me l'ont dit. Bon, mes parents un peu aussi, mais bon, du coup, vu qu'ils ne disaient pas les trucs très bienveillants, je le prenais pas en compte. Et j'ai toujours eu un peu ce truc de toute façon, ils ne me comprennent pas, tu vois, de manière globale, que ce soit mes sœurs ou mes parents. Mais maintenant, non, je me rends compte qu'il y a une part de vrai, et qu'en fait, c'est super d'être déterminé, de donner à 110%, mais je crois à un équilibre, et je ne veux pas glorifier la surproductivité, tu vois. Donc, comme je sais que peut-être malgré moi, j'y participe.
Toi, tu dis ça, en fait, c'est ouf, hein, vraiment. Ouais. Parce que j'ai l'impression que tu produis tellement de choses. Et là, maintenant, en plus, avec ta marque, j'imagine que c'est, ouais, comme tu dis, pas mal de...
Non, mais je surproduis vachement de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est... Je ne veux pas que... Bah, du coup, en fait, c'est tellement facile après de se comparer, de se dire, j'en fais pas assez. Mmh. Même moi, je me compare à des gens, tu vois. Et je fais tout ce que je fais parce que vraiment, c'est des envies. Mais ça a un coût. C'est un coup et c'est pour ça que là, j'essaye de me dire, bah voilà, apprends à ne pas te définir par tes accomplissements parce que ce n'est pas le cas, tu vois. Et donc, faut que j'apprenne à, je pense, aimer ma personne parce que là, j'ai surtout appris à aimer mes accomplissements. Voilà, très philosophique, hein.
Non, c'est hyper intéressant. Comment tu te vois dans 10 piges? T'y penses parfois?
Pas trop.
Tu t'es fait un plan de vie?
Pas du tout, tu vois. Typique, ça, l'anxiété as fuck. Non, pas du tout. Mon but, c'est d'être heureuse, clairement. D'être épanouie. Et je en fait, maintenant, j'essaie de faire vraiment attention à ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'en draine. Donc, je sais que écrire, partager, échanger me donne beaucoup d'énergie. Créer aussi. Et en fait, ça qui est compliqué, c'est que je vois ce qui m'en draine, mais pas tellement, parce que je suis à fond. Mmh. Et qu'en fait, quand c'est pour tes projets, même si il y a des trucs qui te drainent de l'énergie, whatever, tu fais un peu l'impasse, tu vois.
Ça me parle pas mal.
Donc, et puis bon, je m'entoure, donc c'est cool. Donc, je pense que dans 10 ans, j'espère avoir réussi à m'aimer comme je suis, au-delà de mes accomplissements. J'espère continuer à aider des gens. C'est vraiment magnifique d'avoir cette chance. J'espère pouvoir continuer à rencontrer des personnes inspirantes et à échanger avec elles et à partager. Je pense que, tu vois, s'il y a un truc que je retiens pas mal des podcasts que j'ai faits, c'est que les personnes les plus épanouies sont celles qui font ce qu'elles aimaient faire quand elles étaient petites.
Ah.
Quand tu me disais, ta première question, c'est comment tu te voyais à 7-8 ans, ben en vrai, ma seule passion dans la vie, c'était lire et écrire, tu vois. Et... C'est mon appel que je dois filer un rendez-vous. La meuf est tellement incohérente. Ma vie est minutée.
Bah voilà, au moins vous l'avez. Ça sonne la fin,
voilà,
du podcast.
On veut du vrai.
Je t'avoue que c'est la première fois que j'ai une invitée ou un invité qui me dit alors j'ai mis un ce. Et puis qu'en fait on m'entend dans le podcast la fin du podcast.
Ouais. Non, on veut du vrai. C'est vraiment ça. Mais voilà, je travaille dessus et je pense que j'arriverai, ouais, à trouver cet équilibre et voilà, il y a peut-être réussir à me reconcentrer, à me recentrer sur ce qui me nourrit vachement et voilà, continuer à produire et partager parce que j'adore, mais bah voilà, peut-être réussir à trouver, ouais, à être moins dans le trop et à être juste dans le bien.
Merci pour ça.
Merci
vraiment
à toi, Fabrice.
Et c'est la fin de la récré, il faut qu'on...
Bah, c'est clair, merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusque-là et voilà, je vous embrasse. Merci. Prenez soin de vous.
Bisous.